Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à une session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon.
This broadcast is furnished as a public
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome you.
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la quatrième session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assistent à cette conférence ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg avec Clay Christiansen et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Vrais disciples du Seigneur » et chantera maintenant Louange à Dieu. Ensuite, Brent H. Nielsen, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our Father in heaven,
we come before thee in prayer this morning. Nous venons devant toi en prière ce matin, rassemblés à travers le monde entier pour cette conférence générale.
We acknowledge thy hand in the many blessings that
nous reconnaissons ta main dans toutes les bénédictions que nous recevons. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ et pour son atonement, son expression infinie. Et nous exprimons notre reconnaissance pour le rétablissement de l'Évangile et pour des prophètes vivants et des apôtres vivants qui nous guident en ces derniers jours. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour ce chœur du tabernacle, pour les talents qu'ils démontrent. Bénis ceux qui vont nous enseigner, ceux qui vont également se présenter, afin qu'ils soient tous guidés par l'Esprit. Bénis ceux d'entre nous qui sont venus pour apprendre, afin que nous ayons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, et que nous puissions savoir aussi comment agir et diriger ton Église et diriger nos propres vies. Nous te prions pour ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now sing.
Le chœur va maintenant chanter Apprends-moi à marcher dans la clarté. Après ce cantique, Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, nous adressera la parole. Il sera suivi de Russell M. Nelson du Collège des Douze Apôtres. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Ronald A. Rasband de la présidence des 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Merci, le chœur du tabernacle. Quel chœur merveilleux et quelle inspiration pour chacun d'entre nous. Mes chers frères et sœurs, j'ai récemment reçu une lettre d'une mère inquiète me suppliant de faire un discours à la conférence générale sur un sujet qui serait particulièrement bénéfique à ses deux enfants. Ils s'étaient progressivement éloignés l'un de l'autre et ne se parlaient plus. Cette mère avait le cœur brisé. Dans sa lettre, elle m'assurait qu'un message sur ce sujet lors de la conférence générale réconcilierait ses enfants et que tout irait bien. La demande sincère de cette sœur fidèle n'a été qu'une des nombreuses indications que j'ai reçues au cours des derniers mois concernant le sujet que je devais aborder aujourd'hui, lequel est un problème grandissant. Non seulement pour une mère inquiète, mais aussi pour beaucoup de personnes dans l'Église et même dans le monde. Je suis impressionné par la foi de cette mère aimante qui croit qu'un discours de conférence générale peut contribuer à guérir les relations entre ses enfants. Je suis certain que sa confiance ne réside pas tant dans les capacités des orateurs que dans la vertu de la parole de Dieu qui a un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que quoi que ce soit d'autre. Chère sœur, je prie pour que l'Esprit touche le cœur de vos enfants. Les relations tendues et brisées sont aussi anciennes que les êtres humains. Caïn a été le premier à permettre au cancer de l'amertume et de la malice de corrompre son cœur. Il a nourri l'envie et la haine dans son âme et a permis à ses sentiments de mûrir jusqu'à commettre l'impensable, tuer son propre frère et devenir ainsi le père des mensonges de Satan. Depuis lors, l'envie et la haine ont conduit à certains des événements les plus tragiques de l'histoire. Elles ont opposé Saül à David, les fils de Jacob à leur frère Joseph, Laman et Lémuel à Néphi et à Malikia à Moroni. Je suppose que quiconque vit sur cette terre a, dans une certaine mesure, été affecté par les sentiments destructeurs de la querelle, du ressentiment, mais de la vengeance. Peut-être reconnaissons-nous parfois ces sentiments en nous lorsque nous sommes blessés, en colère ou envieux. Il est très facile de juger les autres, prêtant souvent des attentions mauvaises à leurs actes afin de justifier notre propre ressentiment. Bien sûr, nous savons que c'est mal. La doctrine est claire. Nous dépendons tous du Sauveur. Aucun de nous ne peut être sauvé sans lui. L'expiation du Christ est infinie et éternel. Le pardon de nos péchés est conditionnel. Nous devons nous repentir et nous devons être disposés à pardonner aux autres. Jésus a enseigné « Pardonnez-vous les uns aux autres, car celui qui ne pardonne pas est condamné devant le Seigneur, car c'est en lui que reste le plus grand péché. Et heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Bien sûr, ces mots semblent parfaitement raisonnables quand ils concernent quelqu'un d'autre. Nous voyons si clairement et si facilement des conséquences néfastes se produire quand d'autres personnes jugent et entretiennent des rancunes. Et nous n'aimons certainement pas que l'on nous juge. Mais quand il s'agit de nos préjugés et de nos griefs, nous justifions trop souvent notre colère en prétendant qu'elle est juste et que notre jugement est fondé et approprié. Bien que nous ne puissions sonder le cœur d'autrui, nous pensons que nous savons reconnaître une mauvaise motivation ou même une mauvaise personne quand nous en voyons une. Nous faisons des exceptions quand il s'agit de notre propre amertume, parce que nous pensons que dans notre cas, nous disposons de toutes les informations nécessaires pour avoir du mépris pour quelqu'un. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit que quelqu'un qui condamne les autres est inexcusable. Il explique que dès que nous jugeons autrui, nous nous condamnons nous-mêmes, car personne n'est sans péché. Refuser de pardonner est un péché grave, contre lequel le Sauveur nous a mis en garde. Les disciples de Jésus eux-mêmes avaient cherché à s'accuser les uns les autres et ne se pardonnaient pas les uns aux autres dans leur cœur. Et pour ce mal, ils furent affligés et sévèrement châtiés. Notre Sauveur a parlé si clairement de ce sujet qu'il est impossible de se méprendre sur ce qu'il a dit. Je cite, « Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. » Puis-je ajouter une petite note? Quand le Seigneur nous demande de pardonner à tous les hommes, cela inclut de nous pardonner à nous-mêmes. Parfois, de toutes les personnes dans le monde, celle à qui il est le plus difficile de pardonner, et peut-être celle qui a le plus besoin de notre pardon, est la personne que nous voyons dans notre miroir. En fait, on pourrait traiter des jugements que nous portons envers autrui en un seul mot. Quand il s'agit de haïr, de médire, de faire comme si la personne n'était pas là, de railler, d'entretenir de la rancune ou de vouloir faire du mal, veuillez appliquer ceci. Arrêtez. C'est aussi simple que cela. Il nous faut tout simplement arrêter de juger les autres et remplacer nos jugements par l'amour pour Dieu et ses enfants. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous sommes tous frères et sœurs. Je ne sais pas exactement comment exprimer ce point de ne pas juger autrui avec suffisamment d'éloquence, de passion et de persuasion pour que cela reste. Je peux citer des Écritures, expliquer la doctrine, et je vais même citer un autocollant que j'ai récemment vu sur un pare-choc. Il se trouvait à l'arrière d'une voiture dont le conducteur semblait être un peu bourru. Mais les mots qu'il comportait enseignaient une leçon profonde. Il disait, « Ne me jugez pas parce que je pêche différemment de vous. » Nous devons reconnaître que nous sommes tous imparfaits, que nous sommes des mendiants devant Dieu. À un moment ou à un autre, ne nous sommes-nous pas tous approchés humblement du trône de la miséricorde? Et n'avons-nous pas supplié qu'on nous fasse grâce? N'avons-nous pas souhaité, avec toute l'énergie de notre âme, recevoir la miséricorde, le pardon des fautes que nous avons faites et des péchés que nous avons commis? Parce que nous dépendons tous de la miséricorde de Dieu. Comment pouvons-nous refuser aux autres une partie de la grâce que nous désirons si ardemment nous-mêmes? Frères et sœurs, ne devrions-nous pas pardonner comme nous souhaitons qu'on nous accorde le pardon? Est-ce difficile à faire? Oui, bien sûr. Il n'est pas facile de nous pardonner à nous-mêmes et aux autres. En fait, pour la plupart d'entre nous, cela demande un changement majeur d'attitude et de façon de penser, c'est-à-dire un changement de cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce grand changement de cœur est exactement ce que l'Évangile de Jésus-Christ est censé produire. Comment cela s'accomplit-il ? Grâce à l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu emplit notre cœur, quelque chose de bon et de pur nous arrive. Nous gardons ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Plus nous permettons à l'amour de Dieu de gouverner notre esprit et nos émotions, plus nous permettons à notre amour pour notre Père céleste de grandir dans notre cœur, et plus il est facile d'aimer les autres de l'amour pur du Christ. Lorsque nous ouvrons notre cœur au rayon lumineux de l'amour de Dieu, les ténèbres et la froideur de l'animosité et de l'envie finissent par se dissiper. Comme toujours, le Christ est notre exemple. Ses enseignements et sa vie nous ont montré la voie à suivre. Il a pardonné aux méchants, aux vulgaires et à ceux qui ont cherché à le blesser et à lui faire du mal. Jésus a dit qu'il est facile d'aimer les gens qui nous aiment. Même les méchants peuvent faire cela. Mais il a enseigné une loi supérieure. Ses paroles, résonnant à travers les siècles, nous sont destinées à nous qui vivons aujourd'hui. Elles sont destinées à toutes les personnes qui désirent être ses disciples. Elles sont destinées à vous et moi. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécute. Quand l'amour de Dieu emplit notre cœur, nous devenons bons les uns avec les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. L'amour pur du Christ peut enlever de nos yeux les écailles de la rancune et de la colère, nous permettant ainsi de voir les autres de la façon dont notre Père Céleste nous voit, comme des mortels imparfaits qui ont un potentiel et une valeur bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Parce que Dieu nous aime tant, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres et nous pardonner les uns aux autres. Mes chers frères et sœurs, considérez les questions suivantes comme une évaluation personnelle. Entretenez-vous du ressentiment envers quelqu'un? Faites-vous des commérages, même quand ce que vous dites peut être vrai? Excluez-vous, rejetez-vous ou punissez-vous les autres en raison de quelque chose qu'ils ont fait? Enviez-vous secrètement quelqu'un? Souhaitez-vous faire du mal à quelqu'un? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il serait bon que vous appliquiez le mot mentionné plus tôt. Arrêtez. Dans un monde plein d'accusations et d'hostilité, il est facile de trouver des raisons de ramasser des pierres et de les jeter. Mais avant de le faire, souvenons-nous des paroles de celui qui est notre maître et notre modèle. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Mes frères et sœurs, lâchons nos pierres. Soyons gentils. Pardonnons. Parlons paisiblement les uns aux autres. Laissons l'amour de Dieu emplir notre cœur. Pratiquons le bien envers tous. Le Sauveur a fait cette promesse. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Cette promesse ne devrait-elle pas être assez pour que nous nous concentrions toujours nos efforts sur des actes de gentillesse, de pardon et de charité au lieu d'un comportement négatif? En tant que disciples de Jésus-Christ, rendons le bien pour le mal. Ne cherchons pas à nous venger ou à permettre à la colère de s'emparer de nous. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Rappelez-vous, à la fin, ce sont les miséricordieux qui obtiendront miséricorde. Nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, où que nous soyons, que l'on nous connaisse comme étant des gens qui ont de l'amour les uns pour les autres. Chers frères et sœurs, il y a assez de chagrin et de tristesse dans cette vie sans que nous y ajoutions par notre obstination, notre amertume et notre ressentiment. Nous ne sommes pas parfaits. Les personnes qui nous entourent ne le sont pas non plus. Les gens font des choses qui agacent, déçoivent et irritent. Il en sera toujours ainsi dans la condition mortelle. Néanmoins, nous devons abandonner nos griefs. Le but de la condition mortelle consiste notamment à apprendre à abandonner ces choses. C'est ainsi que le Seigneur agit. N'oubliez pas, les cieux sont pleins de gens qui ont ceci en commun. Ils ont obtenu le pardon et ils pardonnent. Déposez vos fardeaux aux pieds du Sauveur. Ne jugez plus. Permettez à l'expiation du Christ de changer et de guérir votre cœur. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns aux autres. Les miséricordieux obtiendront miséricorde. J'en témoigne au nom de celui qui a tant et si bien aimé qu'il a donné sa vie pour nous, ses amis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre soutien et de votre dévouement. Nous exprimons à chacun de vous notre reconnaissance et notre amour. Récemment, Sœur Nelson et moi avons admiré la beauté de poissons tropicaux dans un petit aquarium privé. Des poissons aux couleurs vives et variées, et de toutes les formes et tailles, nageaient rapidement dans tous les sens. J'ai demandé à la personne qui s'en occupait, « Qui nourrit ces magnifiques poissons ?» Elle a répondu, « C'est moi. » Alors j'ai demandé, « Vous ont-ils jamais remercié ?» Elle a répondu, « Pas encore. » J'ai pensé à des gens que je connais qui sont tout aussi oublieux de leur Créateur et de leur véritable pain de vie. Ils vivent au jour le jour sans avoir conscience de Dieu et de sa bonté envers eux. Ce serait tellement mieux si tout le monde pouvait être plus conscient de la providence et de l'amour de Dieu et lui exprimer cette reconnaissance. Amon a enseigné, « Rendons grâce à Dieu, car il accomplit ce qui est juste à jamais. » L'ampleur de notre reconnaissance est une mesure de notre amour pour lui. Dieu est le Père de notre esprit. Il a un corps de chair et d'eau, glorifié et parfait. Nous vivions avec lui dans les cieux avant notre naissance. Et quand Dieu nous a créés physiquement, c'était à son image, chacun avec son propre corps. Pensez à nos besoins physiques. Ils sont véritablement pourvus par les cieux. Les éléments indispensables à la vie, comme l'air, la nourriture et l'eau, nous parviennent à tous comme des dons d'un Père céleste aimant. La terre a été créée pour subvenir aux besoins de notre bref séjour dans la condition mortelle. Nous sommes nés avec la capacité de grandir, d'aimer, de nous marier et de fonder une famille. Le mariage et la famille sont ordonnés de Dieu. La famille est la cellule sociale la plus importante pour le temps et pour l'éternité. Selon le grand plan divin du bonheur, les familles peuvent être scellées dans le temple et être préparées à retourner vivre pour toujours en sa sainte présence. C'est cela, la vie éternelle. Elle réalise les aspirations les plus profondes de l'âme humaine, le désir naturel de vivre pour toujours avec les membres bien-aimés de sa famille. Nous sommes inclus dans ses desseins divins. Il a dit, « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Afin de réaliser ses desseins, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet acte est une manifestation divine de l'amour de Dieu. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La mission de Jésus-Christ est au centre du plan éternel de Dieu. Il est venu pour racheter les enfants de Dieu. Grâce à l'expiation du Seigneur, la résurrection ou l'immortalité est devenue une réalité. Grâce à l'expiation, la vie éternelle est devenue possible pour toutes les personnes qui se qualifieront. Jésus l'a ainsi expliqué. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Pour l'expiation du Seigneur et le don de la résurrection qui nous a fait, pour ce merveilleux message de Pâques, rendons grâce à Dieu. Notre Père Céleste aime ses enfants. Il a accordé à chacun des dons physiques et spirituels. Je vais parler des deux. Quand vous chantez « Je suis enfant de Dieu », pensez au don qu'il vous a fait d'avoir un corps physique. Les nombreuses caractéristiques extraordinaires de votre corps témoignent de votre nature divine. Chaque organe de votre corps est un don merveilleux de Dieu. L'œil a une lentille autofocus. Les nerfs et les muscles contrôlent les deux yeux pour fabriquer une seule image en trois dimensions. Les yeux sont reliés au cerveau qui enregistre ce qui est vu. Le cœur est une pompe fabuleuse. Il possède quatre valvules délicates qui contrôlent la direction du débit sanguin. Ces valvules s'ouvrent et se ferment plus de 100 000 fois par jour, soit 36 millions de fois par an. De plus, à moins d'être endommagées par la maladie, elles peuvent résister à un tel rythme presque indéfiniment. Pensez au système de défense du corps. Pour le protéger, il perçoit la douleur. En réaction à l'infection, il produit des anticorps. La peau apporte une protection. Elle avertit contre les lésions que la chaleur ou le froid excessif peuvent causer. Le corps renouvelle ses propres cellules vieillies et régule le niveau de ses composants vitaux. Le corps guérit ses coupures, ses ecchymoses et ses os cassés. Sa capacité de reproduction est un autre don sacré de Dieu. Souvenons-nous qu'un corps parfait n'est pas requis pour atteindre sa destinée divine. En fait, certains des esprits les plus beaux habitent des corps frêles ou imparfaits. Les personnes qui ont des problèmes physiques acquièrent souvent une grande force spirituelle, précisément parce qu'elles sont ainsi mises à l'épreuve. Quiconque étudie le fonctionnement du corps humain a sûrement vu Dieu se mouvoir dans sa majesté et sa puissance. Comme le corps est gouverné par la loi divine, toute guérison vient de l'obéissance à la loi sur laquelle cette bénédiction repose. Pourtant, certaines personnes pensent à tort que ces merveilleux attributs physiques sont le fait du hasard ou résultent d'un Big Bang qui a eu lieu quelque part. Posez-vous la question. L'explosion d'une imprimerie peut-elle produire un dictionnaire? La probabilité est très faible. Même si c'était le cas, il ne pourrait jamais réparer ses propres pages déchirées ou reproduire ses nouvelles éditions. Si la capacité du corps d'effectuer les fonctions normales, la défense, la réparation, la régulation et la régénération devait dominer sans limite, la vie sur Terre continuerait à perpétuité. Oui, nous serions bloqués ici sur Terre. Dans sa miséricorde pour nous, notre Créateur a prévu le vieillissement et d'autres processus qui allaient finalement causer notre mort physique. La mort, comme la naissance, fait partie de la vie. Les Écritures enseignent qu'il n'était pas opportun que l'homme fût racheté de cette mort temporelle, car cela détruirait le grand plan du bonheur. Le fait de retourner auprès de Dieu par la porte que nous appelons la mort est une joie pour les personnes qui l'aiment et sont préparées à le rencontrer. Finalement, le temps viendra où tous les esprits et tous les corps seront de nouveau réunis sous leur forme parfaite. Membres et jointures seront rendus à leur propre forme pour ne plus jamais être séparés. Pour ces dons physiques, rendons grâce à Dieu. Aussi important que soit le corps, il n'est que le tabernacle de notre esprit éternel. Notre esprit existait dans le royaume prémortel et continuera de vivre après la mort du corps. L'esprit fournit au corps le mouvement et la personnalité. Dans cette vie et dans la suivante, l'esprit et le corps, une fois réunis, deviennent une âme vivante de valeur divine. Du fait de l'extrême importance de notre esprit, son développement a des conséquences éternelles. Il est fortifié lorsque nous communiquons avec notre Père Céleste aimant par d'humbles prières. Les attributs sur lesquels nous serons jugés un jour sont tous spirituels. Il s'agit de l'amour, de la vertu, de l'intégrité, de la compassion et du service envers autrui. Votre esprit, combiné au corps et abrité par lui, est capable de cultiver et de manifester ces attributs de façon qui sont essentielles à votre progression éternelle. Le progrès spirituel s'atteint en suivant les étapes de la foi, du repentir, du baptême, du don du Saint-Esprit, en persévérant jusqu'à la fin et en recevant les ordonnances de la dotation et du scellement dans le Saint-Temple. Tout comme le corps a besoin de nourriture quotidienne pour survivre, de même l'esprit a besoin d'être nourri. L'esprit est nourri par la vérité éternelle. L'année dernière, nous avons célébré le 400e anniversaire de la version du roi Jacques de la Sainte Bible. Et nous avons le livre de Mormon depuis près de 200 ans. Il est maintenant traduit en 107 langues. Grâce à ces écritures précieuses et à d'autres, nous savons que Dieu est notre Père éternel et que son Fils Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Pour ces dons spirituels, rendons grâce à Dieu. Nous savons que les prophètes de nombreuses dispensations, comme Adam, Noé, Moïse et Abraham, ont tous enseigné la divinité de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Notre dispensation actuelle a été ouverte par notre Père Céleste et Jésus-Christ quand ils sont apparus en 1820 à Joseph Smith, le prophète. L'Église a été organisée en 1830. Maintenant, 182 ans plus tard, nous faisons toujours alliance d'annoncer l'Évangile à toute nation, famille, langue et peuple. Si nous le faisons, celui qui donne et celui qui reçoit seront tous deux bénis. Nous avons la responsabilité d'instruire les enfants de Dieu et de réveiller en eux une connaissance de Dieu. il y a très longtemps, le roi Benjamin a dit, croyez en Dieu, croyez qu'il est et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez que vous devez vous repentir de vos péchés et les délaisser et vous humilier devant Dieu et demander avec sincérité de cœur qu'il vous pardonne. Et alors, si vous croyez toutes ces choses, veillez à les faire. Fin de citation. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Chaque jour, notre défi est d'accéder au pouvoir de l'expiation afin de pouvoir véritablement changer, devenir plus chrétien, nous qualifier pour le don de l'exaltation et vivre éternellement avec Dieu, Jésus-Christ et notre famille. Pour ces pouvoirs, ces bénédictions et ces dons de l'Évangile, rendons grâce à Dieu. Je témoigne qu'il vit, que Jésus est le Christ et que cette Église est la sienne, rétablie en ces derniers jours pour accomplir sa destinée divine. Nous sommes dirigés aujourd'hui par le président Monson, que nous aimons et soutenons de tout notre cœur, de même que nous soutenons ses conseillers, les 12 apôtres, comme prophètes, voyants et révélateurs. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Depuis 20 mois, notre famille a la bénédiction d'avoir un bébé très particulier. Le petit Paxton, notre petit-fils, est né avec une délétion chromosomique très rare, un trouble génétique qui le distingue littéralement de centaines de millions de personnes. Pour notre fille et son mari, un voyage dans l'inconnu qui allait changer leur vie a commencé lorsque Paxton est né. Cette expérience est devenue un creuset où ils reçoivent des leçons spéciales liée à l'éternité. Elder Russell M. Nelson, du Collège de nous a enseigné, pour des raisons généralement inconnues, certains naissent avec des handicaps physiques. Certaines parties du corps peuvent être anormales, les systèmes de régulation peuvent être déficients, et le corps de chacun est sujet à la maladie et à la mort. Néanmoins, le corps physique est un don sans prix. Il n'est pas nécessaire d'avoir un corps parfait pour accomplir une destinée divine. En fait, certains des esprits les plus beaux habitent des corps fragiles. Finalement, le jour viendra où pour tous, l'esprit et le corps seront de nouveau réunis sous une forme parfaite. Membres et jointures seront rendus à leur forme propre. Alors, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pourrons devenir parfaits en lui. Fin de citation. Vous tous qui avez des difficultés, des soucis, des déceptions et des chagrins concernant notre chair, sachez ceci. C'est avec un amour et une compassion infinie que Dieu, notre Père Céleste, vous aime, la personne affligée qui vous est chère et vous. Quand elles doivent affronter une telle souffrance, certaines personnes peuvent se demander « Comment un Dieu Tout-Puissant a-t-il pu laisser faire cela ?» Puis la question qui semble inévitable, « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? » Pourquoi devons-nous connaître la maladie et des événements qui handicapent des membres bien-aimés de notre famille, les rappellent prématurément auprès de Dieu ou prolongent leurs années dans la souffrance ? Pourquoi ces chagrins ? Dans ces moments-là, nous pouvons nous tourner vers le grand plan du bonheur conçu par notre Père Céleste. Quand il nous a été présenté dans la vie préterrestre, ce plan nous a tous fait pousser des cris de joie. Pour faire simple, cette vie est un entraînement en vue de l'exaltation éternelle, et ce processus implique des tests et des épreuves. Il a toujours été ainsi et personne n'est épargné. La confiance en la volonté de Dieu est essentielle à notre condition mortelle. Avec foi en lui, nous puisons dans le pouvoir de l'expiation du Christ dans les moments où les questions abondent et où les réponses sont rares. Après la résurrection, quand il était sur le continent américain, notre Sauveur Jésus-Christ a tendu la main à tous en lançant cette invitation. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés ou aveugles ou boiteux ou mutilés ou lépreux ou qui sont desséchés, qui sont sourds ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai. Car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Il arriva que, lorsqu'il eut ainsi parlé, toute la multitude, d'un commun accord, s'avança avec ses malades et ses affligés, et ses estropiés, avec ses aveugles, et avec ses muets, et avec tous ceux qui étaient affligés de toute autre manière. Et il guérit chacun d'eux, à mesure qu'on les lui amenait. On peut trouver beaucoup de force dans les mots « toute la multitude s'avança ». Oui, mes frères et sœurs, toute la multitude, nous rencontrons tous des difficultés. Puis il y a l'expression qui était affligée de toute autre manière. Nous ne voyons que trop bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Peu après la naissance de notre cher Paxton, nous avons su que notre Père Céleste nous bénirait et nous donnerait des leçons spéciales. Lorsque son père et moi avons mis nos doigts sur sa toute petite tête pour lui donner la première des nombreuses bénédictions de la prêtrise qu'il allait recevoir, les paroles du 9e chapitre de Jean me sont venues à l'esprit, afin que les œuvres de Dieu soit manifesté en lui. Il est clair que les œuvres de Dieu se manifestent par l'intermédiaire de Paxton. Nous apprenons la patience, la foi et la reconnaissance grâce au baume du service, aux innombrables heures d'émotions intenses, aux larmes d'empathie, ainsi qu'aux prières, aux expressions d'amour pour nos êtres chers dans le besoin, particulièrement Paxton et ses parents. James C. Faust a dit: j'admire les parents aimants qui surmontent stoïquement leur angoisse et leur chagrin concernant un enfant né avec une grave infirmité mentale ou physique, ou qu'il l'a acquise par la suite. Cette angoisse se fait souvent sentir chaque jour, sans répit, tout au long de la vie des parents ou de l'enfant. Fréquemment, les parents doivent faire preuve d'une force surhumaine pour s'occuper jour et nuit de leur enfant. Les bras et le cœur de nombreuses mères souffrent pendant des années, soulageant la souffrance de cet enfant particulier et le consolant. Comme cela est décrit dans Mosia, nous avons été témoins de l'amour pur du Sauveur donné à la famille de Paxton, et cet amour est accessible à tous. Et alors, il arriva que les fardeaux qui étaient imposés à Alma et à ses frères furent rendus légers. Oui, le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Un soir, quelques jours après la naissance de Paxton, nous étions dans le service des soins intensifs néonataux du merveilleux centre médical des enfants de la primaire à Salt Lake City, nous émerveillant de l'attention pleine et dévouée des médecins, infirmiers et aides-soignants. J'ai demandé à ma fille comment nous pourrions jamais les payer pour cela, et j'ai lancé un chiffre en tentant d'estimer le coût que cela représenterait. Un médecin qui se tenait près de nous nous a dit que j'étais très en dessous de la réalité et que les soins du petit Paxton coûteraient bien plus que ce que j'avais estimé. Nous avons appris qu'une grande partie des frais causés par les soins donnés dans cet hôpital étaient couverts par de généreux dons de temps et d'argent. J'ai été profondément touché en entendant ses paroles et en pensant à la valeur qu'avait cette toute petite âme aux yeux des personnes qui veillaient si soigneusement sur elle. Cela m'a rappelé une écriture missionnaire bien connue qui a pris une nouvelle signification. Souvenez-vous, que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. J'ai pleuré en méditant sur l'amour sans limite que notre Père Céleste et son Fils bien-aimé Jésus-Christ ont pour chacun de nous, et en apprenant d'une manière convaincante ce que représente la valeur d'une âme pour Dieu, tant sur le plan physique que spirituel. La famille de Paxton a appris qu'elle est entourée d'innombrables anges célestes et terrestres. Certains sont discrètement arrivés quand le besoin se faisait sentir et sont repartis tout aussi furtivement. D'autres sont venus à la porte avec de la nourriture, ont fait la lessive, sont passés prendre des enfants, ont téléphoné pour donner des encouragements et surtout ont prié pour Paxton. Nous avons ainsi reçu une autre leçon spéciale. Si vous tombiez sur une personne en train de se noyer, est-ce que vous lui demanderiez si elle a besoin d'aide? Ou ne serait-il pas mieux de plonger pour le sauver des eaux profondes? Proposer, comme on le fait souvent avec de bonnes intentions, « Dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi », cela n'aide pas du tout. Nous continuons d'apprendre la valeur que cela a de nous intéresser aux personnes qui nous entourent et de connaître leur situation. Et nous apprenons non seulement l'importance d'aider, mais également la joie immense qu'il y a à aider les autres. Le président Monson, qui par son exemple nous montre si magnifiquement comment relever les opprimés, a dit « Que Dieu bénisse tous ceux qui s'appliquent à être le gardien de leurs frères, qui donnent pour soulager la souffrance, qui s'efforcent avec tout ce qu'ils ont de bien en eux de rendre le monde meilleur. Avez-vous remarqué que ces personnes ont un sourire plus grand, leurs pas sont plus assurés, elles ont une aura de satisfaction, car personne ne peut aider les autres sans recevoir lui-même une riche bénédiction. » Fin de citation. Nous rencontrerons des épreuves, l'adversité, des handicaps, du chagrin, des difficultés et toutes sortes d'afflictions, mais notre Sauveur aimant sera toujours là pour nous. Il a promis, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Comme nous sommes reconnaissants envers notre Père Céleste pour Paxton, notre champion. Par son intermédiaire, le Seigneur a manifesté ses œuvres et continue de nous donner ces leçons précieuses, sacrées et spéciales. Je vais conclure par les paroles d'un cantique bien-aimé. Nous voici tous enrôlés pour le grand combat. Partons joyeux, partons joyeux. Nous recevrons les lauriers promis aux soldats si nous nous montrons vaillants comme eux. Mes frères et sœurs, j'espère que nous continuerons de porter noblement nos fardeaux et que nous tendrons la main aux personnes parmi nous qui souffrent et ont besoin d'être encouragées. Je prie pour cela. Puissions-nous tous remercier Dieu pour ses bénédictions et renouveler notre engagement vis-à-vis de notre Père Céleste de rendre humblement service à ses enfants. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter Hosanna au grand roi. Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Julie Bébec, qui a été relevée hier de son appel de présidente générale de la Société de secours. Après le discours de Sœur Beck, D. Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres nous adressera la parole. Le chœur chantera ensuite « Sachons dire un mot gentil ».
This is the 182nd.
Vous assistez à la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Je suis vraiment reconnaissante de ces merveilleux cantiques. Au cours de ces dernières années, j'ai senti que je devais parler régulièrement de la Société de Secours, de ses objectifs, de ses qualités, de la valeur de son histoire, de son œuvre et de son partenariat avec les évêques et les collèges de la prêtrise de Melchizedek. Il semble important maintenant de porter l'attention sur la vision des prophètes concernant la Société de Secours. Tout comme les prophètes du Seigneur ont continuellement enseigné aux anciens et aux grands prêtres leurs objectifs et leurs devoirs, de même, ils ont faire part de leur vision pour les sœurs de la Société de Secours. D'après leurs conseils, il est clair que la Société de Secours a pour objectif d'accroître la foi et la justice personnelle, de fortifier les familles et les foyers et de rechercher les nécessiteux pour les aider. Foi, famille et secours, ces trois mots simples ont fini par exprimer la vision des prophètes pour les sœurs de l'Église. Depuis le début du rétablissement, les prophètes ont fait part de leur vision de femmes fortes, fidèles, déterminées et qui comprennent leurs valeurs et leur objectif éternel. Quand il a mis en place la Société de Secours, Joseph Smith, le prophète, a demandé à la première présidente de présider cette société en prenant soin des pauvres, en répondant à leurs besoins et en s'occupant des différentes affaires de cette institution. Il voyait l'organisation comme une société d'élite à part de tous les maux du monde. Brigham Young, le deuxième président de l'Église, avait demandé à ses conseillers et au Collège des douze apôtres d'inviter les évêques à laisser les sœurs organiser des sociétés féminines de secours dans les diverses paroisses. Il avait ajouté, certains pourront penser que c'est quelque chose d'insignifiant, mais ce n'est pas le cas. Plus tard, Joseph F. Smith a dit que contrairement aux organisations de ce monde qui sont fondées par des hommes ou des femmes, la Société de Secours est organisée, autorisée, instituée et ordonnée par Dieu. Joseph Fielding Smith a dit que les sœurs avaient reçu le pouvoir et l'autorité d'accomplir beaucoup de grandes choses. Il a dit, vous êtes membre de la plus grande organisation de femmes au monde, une organisation qui joue un rôle essentiel dans le royaume de Dieu sur terre et qui est conçue et gérée d'une manière telle qu'elle aide ses membres fidèles à obtenir la vie éternelle dans le royaume de notre Père. Chaque année, des centaines de milliers de femmes et de jeunes femmes deviennent membres de ce cercle de sœurs qui s'accroît sans cesse. Par la suite, quel que soit l'endroit où elles habitent et participent, elles font partie de la Société de Secours. En raison de son importance, la première présidence a émis le souhait que chaque jeune fille se prépare à entrer dans la Société de Secours bien avant ses 18 ans. La Société de Secours n'est pas un programme. Elle fait officiellement partie de l'Église du Seigneur. Elle est ordonnée par Dieu pour instruire, fortifier et inspirer les sœurs dans leur objectif concernant la foi, la famille et le secours. La Société de Secours est un mode de vie pour les saintes des derniers jours et son influence s'étend bien au-delà d'une classe du dimanche ou d'une réunion sociale. Elle suit le modèle des disciples féminins qui ont œuvré avec le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres dans son Église d'autrefois. On nous a enseigné qu'il est autant de l'obligation d'une femme d'intégrer à sa vie les vertus cultivées par la Société de Secours qu'il est de l'obligation des hommes d'intégrer à la leur les traits de caractère cultivés par la prêtrise. Quand il a organisé la Société de Secours, Joseph Smith, le prophète, a dit aux sœurs que leur rôle consistait à porter secours aux pauvres et sauver des âmes. Dans leur tâche de sauver des âmes, les sœurs sont autorisées à organiser et à participer à de larges sphères d'influence. La première présidente de la Société de Secours a été mise à part pour expliquer les Écritures, et la Société de Secours a encore une responsabilité essentielle d'enseignement dans l'Église du Seigneur. Quand Joseph Smith a dit aux sœurs que l'organisation de la Société de Secours les préparait pour les droits, les bénédictions et les dons de la prêtrise, l'œuvre de salut du Seigneur leur a été ouverte. Sauver des âmes signifie faire connaître l'Évangile et participer à l'œuvre missionnaire. Cela implique de s'engager dans l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale. Cela implique de faire tout son possible pour devenir autonome spirituellement et temporellement. John Awitso a déclaré que la société de secours propose de secourir les pauvres, les malades, les personnes qui doutent, qui sont dans l'ignorance, soulagées de tout ce qui fait obstacle à la joie et à la progression de la femme. Quelle magnifique mission! Boyd K. Packer a comparé la société de secours à un mur protecteur. La responsabilité de protéger les sœurs et leurs familles confère une importance plus grande à la sollicitude et au ministère des instructrices visiteuses et permet de manifester notre volonté de nous rappeler nos alliances avec le Seigneur. Quand nous démontrons que nous sommes disposés à nous souvenir de nos alliances avec le Seigneur, nous qui prenons soin des pauvres et des affligés, nous travaillons coude à coude avec les évêques pour veiller sur les besoins spirituels des saints. Le président Kimball a dit, « Il y a beaucoup de sœurs qui sont vécues de haillons spirituels. Elles ont droit à de splendides robes, des robes spirituelles. » Il vous appartient d'aller chez elles pour leur donner des robes à la place de leur haillon. Harold Billy partageait cette vision. Il a dit, « Ne voyez-vous pas pourquoi le Seigneur a chargé la société secours de visiter ces foyers ? C'est parce qu'à l'exception du maître lui-même, il n'y a personne dans l'Église qui a un contact plus charmant, une compréhension plus complète des sœurs et de la vie de ces personnes. » Joseph F. Smith a mis en garde les sœurs de la société de secours et leurs dirigeantes, leur disant qu'ils ne voulaient pas voir une époque où les sociétés de secours suivront les organisations fondées par des femmes ou s'y mêleront et perdront leur identité. Ils voulaient que les sœurs mènent le monde, particulièrement les femmes de ce monde, dans tout ce qui est digne de louange, divin, et dans tout ce qui édifie et purifie les enfants des hommes. Sa recommandation insiste sur la responsabilité d'éliminer toute tradition, mode ou tendance et d'incorporer des pratiques qui sont en accord avec les objectifs de la société de secours. Les dirigeantes qui recherchent la révélation peuvent s'assurer que chaque réunion, leçon, cours, activité et travail de la société de secours atteint les objectifs pour lesquels elle a été créée. La sociabilité, l'amitié et l'unité que nous désirons seront les doux fruits de notre service ensemble, avec le Seigneur dans son œuvre. Le président Monson et ses conseillers ont récemment témoigné que le Seigneur a rétabli la plénitude de l'Évangile par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, et que la société de secours constitue une part importante de ce rétablissement. Prouvant son souhait que le patrimoine glorieux de la société de secours soit préservé, la première présidente, Prudence, a récemment publié et distribué dans le monde entier « Fille dans mon royaume, l'histoire et l'œuvre de la société de secours ». Dans ce livre, nous pouvons trouver des modèles et des exemples de sœurs et de frères travaillant en partenariat dans les familles et dans l'Église. Et nous pouvons apprendre quels sont nos principes, ce que nous croyons et ce que nous devons protéger. La première présidence nous a recommandé d'étudier ce livre important et de laisser les vérités intemporelles et les exemples inspirants qu'il contient influencer notre vie. À mesure que les sœurs vivent davantage en accord avec les objectifs de la société de secours, la vision des prophètes s'accomplira. Le président Kimball a dit, dans cette organisation, il y a un pouvoir qui n'a pas encore été pleinement exercé pour fortifier les foyers de Sion et édifier le royaume de Dieu, et qui ne le sera que quand les sœurs et les frères de la prêtrise auront la vision de la société de secours. Il a prophétisé que la majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l'Église dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes de l'extérieur de l'Église, qui ont souvent une grande spiritualité, se joindront à l'Église en grand nombre. Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église reflèteront la justice et l'équilibre dans leur vie et dans la mesure où elles seront considérées différentes des femmes du monde. Je suis reconnaissante de la vision des prophètes concernant la société de secours. Comme le président Hinckley, je suis persuadée qu'il n'existe aucune organisation qui puisse se comparer à la société de secours de l'Église. Il est de notre responsabilité de vivre en accord avec la vision des prophètes concernant la société de secours, en accroissant la foi, en fortifiant la famille et en apportant du secours. Je termine par ces paroles du président Snow. L'avenir de la société de secours est plein de promesses. Avec la croissance de l'Église, son champ d'utilité s'accroîtra en proportion et sa bonne influence sera encore plus grande que par le passé. Il a dit aux sœurs qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu, « Comme vous avez partagé les travaux, vous allez certainement partager le triomphe de l'œuvre ainsi que l'exaltation et la gloire que le Seigneur donnera à ses enfants fidèles. Je rends également témoignage de cette vision. Au nom de Jésus-Christ. Amen. »
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred.
Notre reconnaissance est profonde envers Sœur Beck et ses conseillères et tout le board de la Société de secours. Dernièrement, nous avons pu le voir, un intérêt croissant pour les croyances de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'est développé. Nous nous en réjouissons parce qu'en fin de compte, notre mission fondamentale est d'enseigner l'Évangile de Jésus-Christ, sa doctrine, au monde entier. Mais nous devons admettre que des confusions ont existé et qu'elles existent toujours quant à notre doctrine et à la façon dont elle est établie. C'est ce dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Le Sauveur enseigna sa doctrine au midi des temps, et ses apôtres luttèrent vigoureusement pour la préserver des attaques constantes des fausses traditions et philosophies. Les épîtres du Nouveau Testament rapportent de nombreux incidents qui démontrent qu'une apostasie grave c'était déjà répandu pendant le ministère des apôtres. Les ténèbres de l'apostasie qui suivirent furent éclairées occasionnellement, puis graduellement par des rayons de lumière de l'Évangile, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, l'aube éclatante du rétablissement se lève sur le monde et que l'Évangile du Christ, dans sa plénitude, soit de nouveau sur la terre. Ce jour glorieux commença lorsque, dans une colonne de lumière plus brillante que le soleil, Dieu le Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ rendirent visite au jeune Joseph Smith et mirent en route ce qui allait devenir quasiment un flot de révélations accompagnées de l'autorité et de pouvoir divin. Dans ces révélations, nous trouvons ce que nous pourrions appeler la doctrine de base de l'Église de Jésus-Christ rétablie sur la terre. Dans le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, Jésus lui-même définit cette doctrine en ces termes. Et ceci est ma doctrine, et c'est la doctrine que le Père m'a donnée. Et je témoigne du Père, et le Père témoigne de moi, et le Saint-Esprit témoigne du Père et de moi. Et je témoigne que le Père commande à tous les hommes de partout de se repentir et de croire en moi. Et quiconque croit en moi et est baptisé, celui-là sera sauvé. Et ce sont ceux-là qui hériteront le royaume de Dieu. Et quiconque ne croit pas en moi et n'est pas baptisé sera damné. Et quiconque croit en moi croit aussi au Père. Et le Père lui témoignera de moi, car il le visitera de feu et du Saint-Esprit. En vérité, je vous dis que c'est ma doctrine. Et quiconque bâtit là-dessus bâtit sur mon roc, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. C'est notre message, le roc sur lequel nous bâtissons, la fondation de toute chose dans l'Église. Comme tout ce qui vient de Dieu, cette doctrine est pure, elle est claire, elle est facile à comprendre, même pour un enfant. C'est le cœur rempli de joie que nous invitons chacun à la recevoir. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de grandes choses et de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Cela veut dire que bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous ne savons, les vérités et la doctrine que nous avons reçues sont venues et continueront à venir par la révélation divine. Dans certaines traditions religieuses, des théologiens prétendent avoir la même autorité pour enseigner que les dirigeants religieux, et les questions de doctrine peuvent donner lieu à un combat d'opinion entre eux. Certains s'appuient sur les conciles œcuméniques du Moyen-Âge et leur credo. D'autres insistent surtout sur les raisonnements de théologiens postérieurs ou apôtres, ou sur l'herméneutique ou l'exégèse biblique. Difficile à traduire. Nous aussi, nous accordons de la valeur à l'érudition qui améliore la compréhension. Mais dans l'Église, aujourd'hui, comme pour autrefois, définir la doctrine du Christ ou corriger les déviations doctrinales est une affaire de révélation divine, accordée à ceux que le Seigneur dote de l'autorité apostolique. En 1954, J. Reuben Clark, fils qui était alors conseiller dans la première présidence, a expliqué la façon dont la doctrine est promulguée dans l'Église et le rôle prééminent du président de l'Église. En parlant des membres de la première présidence et du Collège des douze apôtres, il a déclaré « Nous devrions nous rappeler qu'un appel spécial a été confié à certaines autorités générales. Elles possèdent un don spécial. Elles sont soutenues comme prophètes, voyants et révélateurs, ce qui leur donne une dotation spirituelle spéciale liée à leur responsabilité d'instruire le peuple. Elles ont le droit, le pouvoir et l'autorité de déclarer la volonté de Dieu à son peuple, en accord avec le pouvoir et l'autorité suprême du président de l'Église. Les autres autorités générales ne reçoivent pas cette dotation spirituelle et cette autorité spéciale pour recouvrir leurs enseignements. Elles sont limitées, et cette limitation de leur pouvoir et de leur autorité pour enseigner qui en découle s'applique à tous les autres officiers et membres de l'Église, car aucun n'a la dotation spirituelle de prophète, voyant et révélateur. En outre, comme nous venons de le dire, le président de l'Église a une dotation spéciale et supplémentaire à cet égard, car il est le prophète, le voyant et le révélateur de l'Église tout entière. Comment le Sauveur révèle-t-il sa volonté et sa doctrine à ses prophètes, voyants et révélateurs ? Il peut agir par l'intermédiaire d'un messager ou personnellement. Il peut parler par sa propre voix ou par la voix du Saint-Esprit, qui est une communication d'esprit à esprit pouvant être exprimée par des paroles ou des sentiments qui transmettent une connaissance au-delà des mots. Il peut parler à ses serviteurs individuellement ou agissant en conseil. Je cite deux exemples tirés du Nouveau Testament. Le premier est une révélation donnée au chef de l'Église. Au début du livre des Actes, nous voyons que les apôtres du Christ n'annonçaient le message de l'Évangile qu'aux Juifs. Mais maintenant, selon le calendrier du Seigneur, le temps était venu de changer. Pierre, qui se trouvait alors à Joppé, fait le même rêve à trois reprises. Il voit toutes sortes d'animaux descendre du ciel sur une grande nappe attachée par les quatre coins. Et il reçoit l'ordre de tuer et de manger. Il est réticent. Certains animaux sont souillés ou impurs selon la loi de Moïse, et qu'il n'a jamais violé le commandement de ne pas en manger. Néanmoins, la voix dit à Pierre dans son rêve, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » La signification de ce rêve va devenir claire peu après, lorsque plusieurs hommes envoyés par le centurion romain Corneille arrivent à la maison de Pierre pour lui demander de venir instruire leur maître. Corneille a rassemblé un groupe assez important de membres de sa famille et d'amis, et en les voyant dans l'attente de recevoir son message, Pierre dit « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui accompagnaient Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Par cette expérience et à cette révélation donnée à Pierre, Le Seigneur modifia la pratique de l'Église et révéla à ses disciples une compréhension plus complète. Et ainsi, la prédication de l'Évangile fut élargie pour inclure toute l'humanité. Plus tard, dans le livre des Actes, nous trouvons une autre histoire un peu similaire qui montre cette fois comment la révélation relative à des questions de doctrine peut se produire dans une réunion de conseil. Il se produisit une controverse sur le point de savoir si la circoncision, qui est requise selon la loi de Moïse, devait être intégrée comme commandement de l'Évangile et de l'Église du Christ. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Le compte-rendu de ce conseil est certainement incomplet, mais on nous dit qu'après une grande discussion, Pierre, qui était le chef des apôtres, se leva et déclara ce que le Saint-Esprit lui avait confirmé. Il rappela au conseil que lorsque l'on commença à prêcher l'Évangile aux gentils, qui n'étaient pas circoncis dans la maison de Corneille, ils reçurent le Saint-Esprit, tout comme les convertis juifs qui étaient circoncis. Dieu, dit-il, n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Après cela, Paul, Barnabas et d'autres frères peut-être parlèrent en faveur de la déclaration de Pierre, et Jacques proposa que cette décision soit rendue exécutoire par une lettre adressée à l'Église, et le conseil fut uni d'un commun accord. Dans la lettre annonçant leur décision, les apôtres écrivirent « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, ou en d'autres termes, la décision est venue par révélation divine, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. » Aujourd'hui, dans l'Église rétablie de Jésus-Christ, nous suivons le même modèle. Le président de l'Église peut annoncer ou interpréter des points de doctrine sur la base de la révélation qu'il reçoit. Les exposés de doctrine peuvent aussi venir du conseil conjoint de la première présidence et du collège des douze apôtres. Les délibérations du conseil comportent souvent une évaluation des écritures canoniques, des enseignements des dirigeants de l'Église et des pratiques passées. Mais au final, tout comme dans l'Église du Nouveau Testament, l'objectif n'est pas simplement le consensus des membres du Conseil, mais la révélation de Dieu. C'est un processus qui nécessite la raison et la foi pour obtenir la volonté du Seigneur. En même temps, il ne faut pas oublier que toutes les déclarations faites par un dirigeant de l'Église, passé ou présent, ne sont pas forcément de la doctrine. On reconnaît d'ordinaire dans l'Église que ce qu'un dirigeant déclare une seule fois représente souvent une opinion personnelle, quoique bien réfléchie, qui n'est pas destinée à être officielle ou exécutoire pour l'Église tout entière. Joseph Smith, le prophète, enseigna qu'un prophète n'est un prophète que lorsqu'il agit comme tel. Le président Clark, que j'ai cité précédemment, a déclaré « Quand j'étais petit, mon père m'a raconté une petite histoire qui, bien que je ne sache pas par quelle autorité, illustre ce point. Son histoire racontait que pendant l'agitation générale due à l'arrivée de l'armée de Johnston, Brigham Young avait fait au peuple, au cours de la réunion matinale, un vibrant sermon, plein de défis contre l'armée qui approchait et avait déclaré son intention de lui résister et de la repousser. Au cours de la réunion de l'après-midi, il se leva et déclara que Brigham Young avait parlé ce matin-là, mais que le Seigneur allait parler maintenant. Il prononça ensuite un discours dont le message fut l'inverse de celui du sermon de la matinée. Je cite, « L'Église saura par le témoignage du Saint-Esprit accordé aux membres si les frères qui expriment leurs idées sont inspirés par le Saint-Esprit, et cette connaissance sera révélée au moment opportun. » Fin de citation. Dans une déclaration importante, Joseph Smith le prophète confirma le rôle essentiel que joue le Sauveur dans notre doctrine. Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. Le témoignage de Joseph Smith sur Jésus est qu'il est vivant, car il le vit, et ce, à la droite de Dieu. Et il entendit la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père. Je prie tous ceux qui entendent ou qui lisent ce message de rechercher, par la prière et l'étude des Écritures, le même témoignage de la nature divine de l'expiation et de la résurrection de Jésus-Christ. Acceptez sa doctrine par le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et enfin par l'obéissance aux lois et aux alliances de l'Évangile de Jésus-Christ pendant toute votre vie. À l'approche de la fête de Pâques, je rends mon propre témoignage que Jésus de Nazareth était et est le Fils de Dieu, le Messie même dont la venue fut prophétisée autrefois. Il est le Christ qui a souffert à Gethsémané, est mort sur la croix et a été enseveli, et qui est vraiment ressuscité le troisième jour. Il est le Seigneur ressuscité grâce à qui nous ressusciterons tous, et par qui tous ceux qui le veulent peuvent être rachetés et exaltés dans son royaume céleste. C'est notre doctrine qui confirme tous les témoignages précédent sur Jésus-Christ et qui est à nouveau déclaré pour notre époque. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
We are grateful.
Nous remercions le chœur du tabernacle, les organistes et les directeurs du chœur de la belle musique qu'ils ont interprétée ce matin. Le dernier orateur de cette session sera notre prophète bien-aimé Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur clôtera cette réunion en chantant Come Thou Fount of Every Blessing. Ensuite, Père G. Malm, des 70, fera la prière de clôture.
My beloved brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, ce matin, je souhaite vous parler de vérités éternelles, des vérités qui enrichiront notre vie et nous ramèneront sains et saufs à notre foyer. Partout, les gens sont pressés. Les avions à réaction transportent à toute allure leurs précieuses cargaisons humaines à travers de grands continents et de vastes océans pour que les gens puissent assister à des réunions d'affaires, remplir leurs obligations, jouir de vacances et visiter de la famille. Partout, des routes, des autoroutes, des voies rapides, des routes express transportent des millions d'automobiles occupés par encore plus de millions de personnes en un flot apparemment incessant et pour une multitude de raisons pour lesquelles nous nous hâtons chaque jour. Dans ce rythme de vie frénétique, marquons-nous jamais quelques instants de pause pour méditer, surtout sur des vérités intemporelles? Comparées aux vérités éternelles, la plupart des questions et des préoccupations de la vie quotidienne sont plutôt futiles. Qu'allons-nous manger ce soir? De quelle couleur va-t-on repeindre le salon? Doit-on inscrire Johnny au football? L'importance de ces questions et de tant d'autres du même genre s'estompe quand les jours de crise arrivent, quand des êtres aimés sont blessés, quand la maladie frappe le foyer en bonne santé, quand la chandelle de la vie faiblit et que l'obscurité menace. Nos pensées se concentrent et il nous est facile de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est simplement futile. J'ai récemment rendu visite à une femme qui lutte depuis plus de 2 ans contre une maladie mortelle. Elle m'a dit qu'avant sa maladie, ses journées étaient remplies d'activités comme nettoyer sa maison à la perfection et la décorer de beaux meubles. Elle allait chez sa coiffeuse 2 ou 3 fois par semaine et dépensait du temps et de l'argent tous les mois pour agrandir sa garde-robe. Elle invitait rarement ses petits-enfants chez elle parce qu'elle craignait toujours que leurs petites mains négligentes ne casse ou ne détruit ce qu'elle considérait comme ses précieux biens matériels. Puis, elle a reçu la nouvelle inattendue et traumatisante que sa vie, dans la condition mortelle, était menacée et qu'il se pourrait qu'elle n'ait plus que très peu de temps ici-bas. Elle a dit que dès qu'elle a entendu le diagnostic du médecin, elle a su immédiatement qu'elle allait passer le temps qui lui resterait en mettant au centre de sa vie sa famille, ses amis et l'Évangile, parce qu'il représentait ce qu'elle avait de plus précieux. Ces moments de clairvoyance nous arrivent à tous, à un moment ou à un autre. Bien que les circonstances ne soient pas toujours aussi dramatiques, nous voyons clairement ce qui compte réellement dans la vie et comment nous devrions vivre. Le Sauveur a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans nos moments de profonde réflexion ou de grands besoins, l'âme de l'homme se tourne vers les cieux à la recherche d'une réponse divine aux plus grandes questions de la vie. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où irons-nous quand nous quitterons cette vie? On ne trouve pas les réponses à ces questions dans les livres scolaires ni sur l'Internet. Ces questions transcendent la condition mortelle. Elles englobent l'éternité. D'où venons-nous? Cette question vient inévitablement à l'esprit, sinon aux lèvres de chaque être humain. L'apôtre Paul a dit aux Athéniens sur l'aéropage que nous sommes la race de Dieu. Quand nous savons que notre corps physique est issu de parents mortels, nous devons approfondir le sens de la déclaration de Paul. Le Seigneur a déclaré que l'esprit et le corps sont l'âme de l'homme. L'esprit est donc engendré par Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'appelle le Père des Esprits. Les esprits de tous les hommes sont littéralement des fils et des filles engendrés pour Dieu. Nous remarquons que pour nous faire réfléchir à ce sujet, des poètes inspirés ont écrit des messages touchants et des pensées transcendantes. William Wordsworth a écrit cette vérité. Notre naissance n'est que sommeil et oubli. L'âme qui se lève avec nous, étoile de notre vie, a pris ailleurs son départ et vient de bien loin. Ce n'est pas dans un oubli complet, ni dans la nudité totale, mais en traînant des nuées de gloire, que nous venons de Dieu, qui est notre foyer. Le ciel est tout autour de nous, dans notre petite enfance. Les parents réfléchissent à leur responsabilité d'enseigner, d'inspirer, de diriger leurs enfants et d'être des exemples. Et pendant que les parents réfléchissent, les enfants, en particulier les jeunes, posent la question profonde. Pourquoi sommes-nous ici? Généralement, ils s'adressent silencieusement à leur âme, se disant « Pourquoi est-ce que je suis ici ?» Comme nous devrions être reconnaissants qu'un Créateur plein de sagesse ait conçu une terre et nous y ait placés avec un voile de l'oubli de notre existence antérieure, afin que nous soyons mis à l'épreuve pour un temps, ayant la possibilité de faire nos preuves afin de nous qualifier pour tout ce que Dieu a préparé pour nous. Il est clair que l'un des premiers objets de notre existence sur Terre est de recevoir un corps de chair et d'os. Nous avons aussi reçu le don du libre arbitre. De mille façons, nous avons la possibilité de choisir par nous-mêmes. Ici, nous apprenons à la dure école de l'expérience. Nous discernons le bien du mal. Nous apprenons la différence entre l'amer et le doux. Nous découvrons que des conséquences sont attachées à nos actions. Par l'obéissance aux commandements de Dieu, nous pouvons nous qualifier pour cette demeure dont Jésus parlait quand il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. »
Bien que nous venions dans la condition mortelle en emportant des nuées de gloire, la vie avance inéluctablement. La jeunesse suit l'enfance et la maturité approche de manière imperceptible. Nous apprenons par expérience que nous devons nous tourner vers les cieux pour recevoir de l'aide le long de notre parcours de la vie. Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, ont balisé le chemin de la perfection. Ils nous invitent à suivre les vérités éternelles et à devenir parfaits comme ils sont parfaits. L'apôtre Paul a comparé la vie à une course. Il exhorte ainsi les Hébreux. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Fin de citation. Dans notre zèle, ne négligeons pas le sage conseil de l'Ecclésiaste. La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. En réalité, le prix appartient à celui qui persévère jusqu'à la fin. Quand je réfléchis à la course de la vie, je repense à un autre genre de course qui remonte à mon enfance. Mes amis et moi prenions nos canifs et taillions de petits bateaux dans le bois tendre d'un saule. Après l'avoir équipé d'une voile de coton en forme de triangle, chacun lançait son embarcation rudimentaire dans une course sur les eaux relativement tumultueuses de la Provo River en Utah. Nous courions le long de la rive et regardions les petits esquifs qui, tantôt étaient violemment ballottés dans le courant rapide, tantôt naviguaient sereinement quand le cours d'eau s'élargissait. Lors d'une de ces courses, nous avons remarqué qu'un des bateaux devançait tous les autres vers la ligne d'arrivée. Soudain, le courant l'a attiré trop près d'un grand tourbillon et le bateau s'est couché sur le flanc et a chaviré. Il tournait en rond, incapable de revenir dans le courant principal. Il a fini par s'arrêter, tant bien que mal, au bout du plan d'eau, parmi les débris qui l'entouraient, agrippés comme par des tentacules par la mousse verte. Les petits bateaux de mon enfance n'avaient pas de quilles pour assurer leur stabilité, pas de gouvernail pour se diriger et pas d'énergie pour avancer. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que suivre le courant, la loi du moindre effort. À la différence des petits bateaux, nous avons reçu des caractéristiques divines pour nous guider dans notre voyage. Nous entrons dans la condition mortelle, non pour flotter selon les courants mouvants de la vie, mais avec la faculté de penser, de raisonner et d'accomplir. Notre Père Céleste ne nous a pas lancés dans notre voyage éternel sans nous donner le moyen de recevoir de lui des directives pour pouvoir revenir sains et saufs. Je parle de la prière. Je parle aussi des chuchotements, du murmure doux et léger. Et je n'oublie pas les Saintes Écritures qui contiennent la parole du Seigneur et celle des prophètes données pour nous aider à atteindre avec succès la ligne d'arrivée. À un moment de notre mission dans la condition mortelle, apparaissent le pas hésitant, un pâle sourire, la douleur de la maladie. Ce sera la fin de l'été, l'approche de l'automne, le froid de l'hiver et l'expérience que nous appelons la mort. Quiconque réfléchisse et posait la question que Job a si bien formulée, l'homme, une fois mort, peut-il revivre? Nous avons beau faire tout notre possible pour enlever cette question de notre tête, elle revient toujours.
tous les hommes connaîtront la mort. Elle enlève les personnes âgées aux pas hésitants. Son appel est entendu par des gens qui ont à peine parcouru la moitié du chemin de la vie. Et souvent, elle fait taire le rire de petits enfants. Mais qu'en est-il de l'existence au-delà de la mort? La mort est-elle la fin de tout? Robert Blatchford, dans son livre God and My Neighbor, attaquait vivement les croyances chrétiennes comme Dieu, le Christ, la prière et surtout l'immortalité. Il a affirmé ardemment que la mort marquait la fin de notre existence et que personne ne pouvait prouver le contraire. Puis s'est produit quelque chose de surprenant. Son mur de scepticisme est soudain tombé en poussière. Il s'est retrouvé nu et sans défense. Peu à peu, il a commencé à retrouver à tâtons le chemin de la foi qu'il avait raillé et abandonné. Qu'est-ce qui a causé ce profond changement de perspective? Sa femme est morte. Le cœur brisé, il est allé dans la chambre où reposait sa dépouille mortelle. Il a regardé de nouveau le visage qu'il aimait tant. Quand il est ressorti, il a dit à un ami, « C'est elle, et pourtant ce n'est pas elle. Tout a changé. Quelque chose a été enlevé. Elle n'est plus la même. Qu'est-ce qui a pu partir, sinon l'âme ?» Il écrit plus tard, « La mort n'est pas ce que certains imaginent. Ce n'est que le passage à une autre pièce. » Dans cette autre pièce, nous trouverons les femmes, les hommes et les enfants que nous avons tendrement aimés et perdus. Fin de citation. Mes frères et sœurs, nous savons que la mort n'est pas la fin. Cette vérité est enseignée par des prophètes vivants tout au long des siècles. On la trouve aussi dans nos saintes écritures. Dans le livre de Mormon, nous lisons des paroles précises et consolatrices. Or, en ce qui concerne l'état de l'âme entre la mort et la résurrection, voici. Il m'a été révélé par un ange que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent ce corps mortel, oui, les esprits de tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, sont ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie. Et alors, il arrivera que les esprits de ceux qui sont justes sont reçus dans un état de bonheur, qui est appelé paradis. Un état de repos, un état de paix, où ils se reposeront de toutes leurs difficultés et de tous les soucis et de toutes les tristesses. Fin de citation. Quand le Sauveur a été crucifié et que son corps a été déposé dans la tombe pendant 3 jours, son esprit y est entré de nouveau. La pierre a été roulée et le Rédempteur ressuscité est sorti, revêtu d'un corps immortel de chair et d'os. À la question de Job, l'homme une fois mort peut-il revivre? La réponse a été donnée quand Marie et d'autres se sont approchés du tombeau et ont vu deux hommes en vêtements éclatants qui leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Nous ressusciterons tous grâce à la victoire du Christ sur le tombeau. C'est la rédemption de l'âme. » Paul a écrit, « Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. C'est à la gloire céleste que nous aspirons. C'est dans la présence de Dieu que nous voulons demeurer. C'est une famille éternelle, à une famille éternelle que nous voulons appartenir. Ces bénédictions s'obtiennent par une vie d'effort, de recherche, de repentir et finalement de réussite. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où irons-nous après cette vie? Il n'y a plus de raison pour que ces questions universelles restent sans réponse. De toute mon âme et en toute humilité, je témoigne que ce dont j'ai parlé est vrai. Notre Père céleste se réjouit des gens qui respectent ses commandements. Il se soucie aussi de l'enfant perdu, de l'adolescent qui rentre tard, du jeune qui s'égare, des parents délinquants. Tendrement, le Maître leur dit, comme à nous tous, revenez, avancez, entrez, entrez à la maison, venez à moi. Dans une semaine, nous allons célébrer Pâques. Nos pensées se tourneront vers la vie du Sauveur, sa mort et sa résurrection. Moi, son témoin spécial, je vous témoigne qu'il vit et qu'il attend notre retour triomphal. Puissions-nous effectivement retourner triomphalement? C'est là ma prière, en son saint nom. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen.
Our Heavenly Father,
notre Père Céleste,
we are so grateful,
nous sommes vraiment reconnaissants
to be able to approach thee in prayer,
de pouvoir t'approcher en prière.
And we do it with reverence heart.
Et nous le faisons d'un cœur révérent, reconnaissant de cette merveilleuse session de conférence générale, sous la direction de ton prophète, président Thomas S. Monson, et de la première présidence. Nous sommes reconnaissants que nous ayons pu être en présence d'apôtres et de prophètes, et pour la connaissance et la compréhension avec laquelle qu'ils ont reçu avec le pouvoir avec lequel ils ont pu nous déclarer la doctrine du Christ. Nous sommes reconnaissants des messages qui ont été délivrés pendant cette session à travers la musique et à travers les mots, et en particulier par les murmures de l'Esprit qui nous a communiqué des sentiments et des pensées à chacun de nous individuellement. Père, aide-nous dans nos circonstances particulières afin que nous continuions à aller de l'avant pour devenir de vrais disciples, avec un témoignage qui puisse nous donner la stabilité dans la vie, gardant la perspective éternelle de tout ce qui appartient à cette vie terrestre, et nous prions humblement pour que, dans nos circonstances particulières, nous puissions être des témoins de toi et de ton évangile, par la parole, par l'exemple, et avec un pouvoir de conviction pour nous défendre la vérité et la justice au monde entier. Nous te remercions, Père, et nous exprimons cette prière envers toi au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Vous venez d'assister à une session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.